France Inter.
Journal de Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous. L'Argentine, flambée, record de cas de dengue et pénurie de répulsifs qui confinent à l'hystérie. À Tours, l'agression filmée, c'était mercredi dernier, d'une ado de 14 ans. Quatre jeunes filles devront répondre de leurs actes devant le tribunal pour enfants. Une cinquième jeune fille, âgée d'à peine 11 ans, sera elle prise en charge par un juge des enfants. Arnaque au diamant, 150 victimes, un homme comparaissait hier devant le tribunal de Nanterre. Et puis Notre-Dame de Paris, comme si vous y étiez. La Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris propose une visite incroyable en 3D. De quoi patienter avant la réouverture de la cathédrale prévue le 8 décembre prochain.
Et à 7h50 sur Inter, Passion Polar. Le festival Quai du Polar à Lyon fête ses 20 ans. Comment expliquer le succès de ce genre littéraire passé de mineur à majeur en quelques années? Réponse avec nos invités en duplex de Lyon, l'écrivain Hervé Lecor, auteur de la dystopie Qui après nous vivrait, et la journaliste Élise Lépine.
France Inter.
Après le Brésil et le Paraguay, c'est maintenant l'Argentine qui est confrontée à la pire épidémie de dengue de son histoire.
Et le pays souffre d'une pénurie de répulsifs qui confine à l'hystérie. Bousculade dans les supermarchés, voyage à l'étranger pour en acheter, prix délirant sur Internet. Les hôpitaux sont débordés, mais le gouvernement ultralibéral du président Milei n'intervient pas et charge les régions de gérer la crise. Reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
Dans les vestiaires d'une salle de gym de Buenos Aires, Victoria, 50 ans, s'arrose les mollets avec parcimonie après sa douche, avec le dernier spray anti-moustique qui lui reste.
Aujourd'hui, c'est un trésor, donc je ne le dilapide pas, parce qu'on n'en trouve plus. Et ce qu'on trouve est très cher. Hier, j'ai vu une crème à 19 euros. Ce n'est pas un parfum, c'est juste une bombe anti-moustique, c'est de la folie.
180 000 cas de dengue et 129 morts, c'est 10 fois plus que l'année dernière. Des produits de prévention en rupture de stock et des hôpitaux saturés, mais silence du gouvernement. Cette semaine, finalement, le ministre de la Santé, Mario Rousseau, est apparu à la télévision.
Seulement 0,2% des personnes affectées vont en thérapie intensive avec une mortalité de 0,05%. Il n'y a ni recette magique, ni vaccin d'ailleurs qui aide à baisser les contagions. Nous allons freiner cette épidémie avec de la prévention et une consultation précoce.
Et le gouvernement a fait une annonce hier soir, l'ouverture à l'importation de produits insectifuges pendant un mois, mais sans que l'organisme de contrôle de médicaments national n'intervienne et surtout sans restriction de prix.
Une épidémie favorisée par le réchauffement climatique et le phénomène El Niño. Autre bizarrerie entraînée par ce changement climatique. La France va connaître ce week-end un pic de chaleur, 25 à 30 degrés. Ce n'est pas inédit, mais ce n'est pas fréquent non plus pour un début avril. Une poussée du mercure combinée à l'arrivée sur le pays de sable du Sahara qui va colorer l'atmosphère en orange. Et si ce sable riche en minéraux est bénéfique pour les sols, c'est moins bon pour les poumons. Il vaut mieux éviter d'ouvrir ses fenêtres et de pratiquer une activité physique.
5 personnes désormais mais en garde à vue après la mort d'un adolescent de 15 ans qui a été passé à tabac jeudi à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne.
Il s'agit de 4 mineurs âgés de 15 et 17 ans et d'un majeur de 20 ans. Autre agression, celle de Samara, 13 ans, c'était mardi devant son collège à Montpellier. Dans cette affaire, 3 mineurs de 14 et 15 ans ont été mis en examen hier soir pour tentative d'homicide volontaire et placés sous contrôle judiciaire. Selon le parquet, ce déferlement de violence aurait son origine dans les invectives entre élèves sur les réseaux sociaux. Et puis, à Tours, ce sont 5 jeunes filles qui sont suspectées d'avoir agressé une élève de leur école, la rouant de coups alors qu'elle était au sol. On tape et toi tu filmes. Un guet-apens filmé donc est diffusé sur les réseaux sociaux. Annabelle Vanek de France Bleu Touraine.
Le motif de l'agression serait né d'échanges sur un groupe Snapchat avec insultes et menaces. Un motif particulièrement futile selon la procureure de la République de Tours et en tout cas en décalage total avec le déchaînement de violence qui a eu lieu. La jeune fille a été projetée au sol par 5 autres adolescentes scolarisées dans le même établissement scolaire qu'elle, toutes âgées de 11 à 15 ans. La victime a reçu des coups de poing et de pied sur le visage et sur l'ensemble du corps. Elle a eu le nez cassé et 7 jours d'incapacité totale de travail. L'agression a été filmée par 2 des auteurs, puis diffusée quasi simultanément sur les réseaux sociaux. 4 des 5 jeunes filles qui ont porté les coups ont été déférées au parquet de Tours hier après-midi. Elles seront bientôt jugées pour vol avec violence en réunion et pour diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte à l'intégrité d'une personne. Un phénomène dit du happy slapping, La cinquième mineure, la plus jeune, celle de 11 ans, sera prise en charge sur le plan éducatif par un juge des enfants.
Alors ce phénomène dit du happy slapping désigne le fait de filmer l'agression physique de quelqu'un avant de diffuser la scène sur Internet.
Et d'où cette question, Laurence, les réseaux sociaux sont-ils à l'origine de la montée de la violence dans les établissements scolaires?
William de Lisseux est allé poser la question à des collégiens du nord de la capitale. Reportage.
En troisième, Jaden est inscrit sur 3 réseaux sociaux, les grands classiques.
TikTok, Instagram, Snapchat.
À chaque application, sa messagerie. Le jeune homme sait que ses échanges, en principe privés, peuvent devenir publics, être révélés ou instrumentalisés.
Il faut faire très attention, il faut bien s'en servir des réseaux sociaux. J'en vois pas mon corps déjà. Des messages bizarres, ma vie privée. On sait pas de quoi les gens sont capables. Quand t'envoies une partie de ton corps, et bah après ça peut faire tourner dans le collège et après les gens vont commencer à t'harceler, vont dire oui, t'es dégueulasse, tout ça, vont dire t'es sale. Mais faut pas envoyer ce genre de choses, faut pas se faire manipuler.
Plus radical, Chanet a décidé de ne partager aucune image, même avec ses amis.
J'envoie pas de photos de moi, parce que j'ai pas envie que les gens voient ma tête. Je poste pas des choses en vrai, c'est plus pour discuter, parler, voilà.
Il arrive à Tony d'écrire à ses proches, mais il préfère le téléphone.
On parle de tout en appel, mais en message, on parle un peu moins avec... On est plus discret, on va dire.
Une façon, explique le jeune homme, d'éviter les captures d'écran de ces messages qui pourraient ensuite être partagés pour lui nuire.
William Delesseux.
Une escroquerie à plus de 2 millions d'euros, des victimes persuadées d'avoir investi dans une valeur refuge, les diamants.
Un gérant de société comparaissait hier après-midi devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour escroquerie au placement atypique. 150 victimes au total en 2016 et 2017, des particuliers alléchés par un site internet d'investissement dans les diamants avec fort rendement à la clé. Mais les clients n'ont vu ni les diamants, ni le retour sur investissement. Delphine Evdo.
Le concept est simple, acheter des diamants, attendre qu'ils prennent de la valeur, puis les revendre. Pour convaincre les investisseurs, Capital Diamond vend sur son site 15 ans d'expérience, des implantations à Bruxelles, Genève, Londres et un rendement exponentiel sur des diamants certifiés par des laboratoires reconnus. La réalité est bien moins scintillante. Les bureaux à l'étranger n'existent pas. Le gérant n'a aucune qualification en conseil en investissement financier. On est bien loin des 6 à 8% de rendement promis au téléphone et les diamants ne sont pas de la qualité inscrite sur les certificats. Une pierre achetée 70 000 euros par exemple qui n'en vaut en fait pas plus de 5 000. Mais des diamants, au moins il y en a, ce n'est pas du vent, tonne la défense. Sauf que certains clients se retrouveront avec un titre de propriété sans cailloux associé. C'est parce que la justice a bloqué mes comptes avant que je puisse acheter les diamants à mes fournisseurs, tente le gérant de Capital Diamond. Mais les virements des clients, eux, sont bien enregistrés et l'argent envoyé à l'étranger. Le préjudice total est estimé à près de 2,5 millions d'euros.
Et le jugement a été mis en délibéré au 17 mai. À noter qu'un autre grand procès aura lieu sur le même sujet, donc à l'automne, à Nancy, avec cette fois 1300 victimes. Dans 8 mois, réouverture de Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'immense incendie qui a ravagé la cathédrale. L'édifice, on le sait, reste inaccessible, mais saviez-vous que vous pouviez la visiter comme si vous y étiez? Tous les jeudis et les samedis, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, on peut y entrer grâce aux jumeaux numériques de Notre-Dame, créée grâce à la réalité virtuelle, signée Dassault Systèmes, spécialiste de la conception 3D. Un casque virtuel sur la tête, les visiteurs peuvent profiter du même outil qui a servi au travail des scientifiques sur l'édifice pour se rendre, Sarah Mansoura, dans des endroits totalement inaccessibles jusque-là.
Le corps reste dans une salle sombre de 150 mètres carrés, mais les yeux voyagent à l'intérieur du monument.
Vous voyez, là, je viens d'afficher un cylindre bleu qui permet de se téléporter. Je vous invite à rentrer à l'intérieur.
Avec Mehdi Tayoubi, vice-président stratégie et innovation de Dassault Systèmes, on marche dans une cathédrale grandeur nature grâce à des empreintes numériques prises par laser avant et après l'incendie.
Les données dans lesquelles on va se voyager sont constituées d'1,4 milliard de points. Demandez à la plateforme de s'élever.
Mais on peut aussi et surtout monter très haut, attention au vertige, pour observer de près et en 3D sculptures, charpentes ou toitures.
Là, vous avez une tête d'ange magnifique juste ici, à laquelle on voit même la signature du compagnon à l'époque de Viollet-le-Duc qui avait peint ces sculptures.
Un outil inestimable pour les scientifiques.
C'est Incroyable.
Clara Penagos, ingénieure d'études au CNRS, travaille sur le bois. Elle a pu manipuler in situ des vestiges virtuels de poutres calcinées.
On va nous ramener un modèle à échelle 1 et essayer de le placer directement sur le nuage de points à l'endroit où on imagine qu'elle pouvait être. C'est vraiment très simple en fait. Ça nous permet d'avoir une image fixe en quelque sorte et évidemment extrêmement facile à manipuler sans compter le poids puisque vous imaginez bien qu'une pièce de bois de 5 mètres c'est un peu lourd à manipuler.
Tout au long du chantier de restauration, de nouvelles empreintes numériques sont régulièrement prises pour continuer à enrichir ce jumeau virtuel.
Visite donc les jeudis et samedis à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris, 32 euros par personne.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, les tribulations du ministre chinois du Commerce à Paris dans la chronique Écho et les plusieurs vies de l'écrivaine Maryse Condé qui vient de nous quitter dans la chronique On va en reparler.